Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes toujours dans les explications fournies par les Pères de l'Église sur le passage expliqué dans Saint-Luc chapitre 7, à partir du verset 11, au verset 17, sur la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Je vous ai dit que ce passage est particulièrement expliqué, attiré l'attention des pères de l'Église. Donc sur le polycopier qui contient des fichiers, le fichier des chapitres 6 à 10 de Saint-Luc, nous en sommes à la page 10, au milieu de la page. Donc j'ai déjà expliqué, je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit, donc cette mère qui pleure son fils et qui attire l'attention de notre Seigneur Jésus-Christ et qui provoque, force presque la miséricorde du bon Dieu d'agir par la résurrection de ce fils qui vient de mourir, représente l'Église qui pleure des péchés des pécheurs et qui appelle la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, notamment par l'application du sacrifice de la messe. Donc ce jeune homme était fils unique. Parce que l'Église, bien que composée d'un grand nombre de personnes, ne fait cependant qu'une seule mère. Et toute âme qui se souvient d'avoir été rachetée par la mort du Seigneur, sait que l'Église est veuve. Donc, un seul Dieu, une seule Église. Donc, un fils unique qui représente l'Église militante. Alors, d'autres explications ici sont données par les pères de l'Église. Donc, on est au milieu de la page 10, encore une fois. Ce mort était porté dans un sans cercueil. Par les quatre éléments terrestres. Pourquoi ? Parce qu'il y a quatre porteurs. Bon. Quatre porteurs à chaque coin du cercueil qui portent le corps de la personne qui vient de décéder. Et les pères de l'Église insistent lourdement, j'en ai déjà parlé, sur le fait que ce cercueil est en bois et que notre Seigneur Jésus-Christ va toucher le cercueil. S'approchant, verset 14, il toucha le cercueil et les porteurs s'arrêtèrent. Eh bien, ce bois du cercueil représente le bois de la croix, de même que le bois de la crèche de Bethléem représente le bois de la croix qui sanctifie. Ici, c'est la même idée. Donc, les quatre porteurs, si vous voulez, représentent, j'ai déjà expliqué, donc j'y reviens pas, représentent aussi les tentations mondaines, tentations qui viennent de la chair, qui viennent de l'orgueil, qui viennent de notre volonté propre, ce sont l'occasion prochaine volontaire de péché grave qui nous éloigne du bon Dieu. Et donc, pour que le bon Dieu puisse agir sur notre âme, il faut que les porteurs s'arrêtent. C'est-à-dire, il faut d'abord s'arrêter dans le chemin qui nous éloigne de Dieu. On s'arrête, et on commence à se tourner vers le bon Dieu. À ce moment-là, le bon Dieu peut agir. Donc, Le père faut remarquer que ce bois formé, qui forme le cercueil, ce bois du cercueil, jusqu'à là, ne nous était d'aucune utilité, mais dès que le Jésus-Christ l'eut touché, il devint un instrument de vie et le signe du salut que le bois de la croix devait apporter à tous les peuples. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ sanctifie par la croix, donc il touche la croix et refait vivre un bois qui était mort. Le bois qui était mort devient un bois vert, donc un bois qui reverdit, et donc symbole de vie. Nous sommes étendus sans mouvement et sans vie dans le cercueil lorsque le feu d'une passion violente nous consume, ou lorsque les eaux de l'indifférence nous submergent, et que la vigueur de notre âme se trouve comme émoussée et appesantie par le poids de ce corps terrestre. Donc, on ne ressuscite pas par nos propres forces. Il faut accepter d'être touché par notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ qui touche le cercueil représente la grâce actuelle qui touche le péché mortel. J'ai déjà expliqué que la personne qui est décédée, qui est étendue dans le cercueil, est morte. Cela représente la mort spirituelle, donc la mort de l'âme. L'âme est morte, tuée par le péché. Il faut que notre Seigneur Jésus-Christ vienne la toucher par la grâce actuelle. Grâce actuelle qui sont des petites grâces que le bon Dieu envoie même au pécheur, qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou, pour aider ce pécheur à revenir vers lui. Revenant vers lui, cette personne va pouvoir utiliser la grâce actuelle, s'approcher du confessionnal, retrouver par l'absolution sacerdotale la grâce sanctifiante, cette fois-ci, la grâce habituelle. Et donc, cela va permettre à cette personne de ressusciter, et pour preuve de cette résurrection, le mort se dresse sur son séant, se met à parler. Et à ce moment-là, notre Seigneur le rendit à sa mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que la personne a retrouvé la grâce sanctifiante par une bonne confession, un acte de contrition parfaite, il a retrouvé l'amitié du bon Dieu, il peut être remis, j'irais, dans le courant de l'Église militante. Bien que, je revois, il faille avouer que même un pécheur qui vit dans le péché mortel jusqu'au cou reste membre de l'Église militante. Mais c'est un membre moribond de l'Église militante. C'est pour cela que les pères insistent sur le fait que le pécheur qui vit dans le péché mortel est comme sans mouvement et sans vie dans le cercueil. Alors ensuite, d'autres explications sont données ici par les pères. J'ai résumé un peu ces autres explications au milieu de la page 10. Donc c'est très intéressant. Voilà ce que disent les pères. La veuve représente l'âme. Le fils défunt, l'intelligence inactive et morte. La veuve représente aussi l'âme qui a perdu son mari, c'est-à-dire le verbe de vie, la parole divine. Ça représente en quelque sorte la foi qui a perdu la charité. La foi qui a perdu la charité, donc la foi qui est devenue informe. Alors la foi est toujours là. Une foi qui n'est plus vérifiée par la charité existe toujours, mais elle est informe, c'est-à-dire qu'elle est incapable de donner la vie à ce qu'elle touche. Il faut que la charité revienne vivifier cette foi pour que la foi d'informe devienne formée. Et une foi formée, à ce moment-là, peut redonner la vie. Le cercueil, lui, est la conscience dans un état de fausse sécurité, ou le corps que plusieurs ont appelé un sépulcre. Le cercueil est aussi la conscience toujours alarmée du pécheur désespéré. Donc, tant que le mort est étendu dans son cercueil, il ne peut rien faire. Une fois qu'il est touché par la grâce sanctifiante, la première chose qu'il va faire, c'est sortir du cercueil. On le voit très bien dans le texte. Le mort se dresse sur son séant, donc il sort du cercueil. Ceux qui le portent au tombeau, donc on a déjà expliqué ici d'autres explications sur d'autres formes des pères de l'Église, ceux qui le portent au tombeau, donc les quatre porteurs, sont les désirs impurs ou les flatteries des amis qui s'arrêtent aussitôt que le Seigneur touche le cercueil. Dès que le Seigneur arrive, le démon est obligé de partir. Le démon, évidemment, ne peut pas supporter l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ et donc s'enfuit immédiatement dès que notre Seigneur arrive et touche le cercueil. Souvent, en effet, disent les pères, la conscience que touche la crainte des jugements de Dieu rejette les voluptés charnelles et les louanges injustes, rentre en elle-même et répond au sauveur qui la rappelle à la vie. Donc il faut à la fois la toute-puissance de la grâce de Dieu qui va s'approcher du cercueil et le toucher, mais il faut aussi que, avec notre volonté propre, nous coopérions au travail de la grâce. C'est tout le mystère de l'association de la toute-puissance de Dieu avec la volonté de l'homme. Libre arbitre n'est pas détruit par la toute-puissance de la grâce. Dieu est tout-puissant, mais respecte la liberté de l'homme. C'est un des plus grands mystères de la foi catholique. Donc, une fois que je suis touché par la crainte des jugements de Dieu, que j'ai rejeté les voluptés charnelles, les louanges injustes, et surtout les occasions prochaines volontaires de péchés graves, à ce moment-là, je vais rentrer en moi-même, et je vais pouvoir répondre au Seigneur, qui, voyant que je coopère à l'action de ses grâces actuelles, va transformer en quelque sorte une grâce suffisante en une grâce efficace, et je vais pouvoir ressusciter d'entre les morts, c'est ressusciter, sortir du péché. Conclusion des pères, si donc vous êtes coupable d'une grande faute, que vous ne puissiez laver dans les larmes de la pénitence, recourez aux larmes de l'Église votre mère. Donc l'âme fait partie de l'Église militante, et donc fait partie de l'Église corps mystique du Christ. Et donc, si je ne suis pas capable, par mes propres larmes, d'attirer notre Seigneur Jésus-Christ, utilisons les larmes de l'Église. Les larmes de l'Église sont bien plus efficaces parce que l'Église est le corps mystique du Christ. Et donc, si je pleure tout seul, notre Seigneur risque de ne pas entendre mes pleurs, mais si c'est l'Église qui pleure, alors à ce moment-là, le bon Dieu va entendre ses pleurs beaucoup plus facilement. Et si c'est la veuve qui pleure, c'est le symbole de la très sainte Vierge Marie qui pleure au nom de l'Église, alors évidemment, là, notre Seigneur Jésus-Christ vient tout de suite parce qu'il écoute toujours les pleurs de sa mère. Les porteurs représentent les tentations du mal et les fratries et compagnons qui s'arrêtent à cause de l'intervention du Christ. Alors, continuons dans ces explications des Pères de l'Église. Donc, j'ai déjà expliqué que les trois résurrections représentent des états différents de l'âme. La résurrection de la fille du chef de la synagogue, qui s'appelait Jaïr, représente le péché mortel de faiblesse. La résurrection du fils de la veuve de Naïm représente le péché mortel de malice. Et la résurrection de Lazare représente, cette fois-ci, le péché de vice invétéré. Dans les trois cas, notre Seigneur Jésus-Christ peut libérer du péché. Donc notre Seigneur est suffisamment puissant, puisqu'il est Dieu, il peut enlever tous les péchés à condition qu'on les regrette. Et le pire des crimes que nous puissions commettre, dans lesquels nous puissions tomber, c'est justement de vouloir limiter la toute puissance de la grâce du bon Dieu. Et là, on tombe dans le désespoir le plus complet. C'est pour ça que le péché de désespoir est un péché contre le Saint-Esprit. Et ce fut le péché qui anéantit Judas. Judas est en enfer parce qu'il n'a pas voulu croire en la toute puissance de la miséricorde du bon Dieu. Il a voulu limiter en quelque sorte la taille de la miséricorde du bon Dieu, en se disant, mon péché est trop grand pour être pardonnable. Mon péché est impardonnable parce que j'ai attaqué notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et donc il est tombé dans le désespoir le plus complet et s'est suicidé et a fini en enfer. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a dit à propos de Judas cette phrase épouvantable, cette phrase terrible, il aurait mieux fallu pour cet homme qui ne fut point né. Par contre, Saint-Pierre, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, Saint-Pierre qui a commis le même péché, trois fois de suite en plus, le péché de reniement, donc un péché grave contre la foi, va sortir et pleurer amèrement. Il va se rappeler des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il avait pourtant prévenu, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié trois fois, et Saint-Pierre va regretter son péché et va être pardonné. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères sur ces trois morts ressuscités par Jésus-Christ. Les pères voient dans ces trois morts le symbole des trois sortes de pécheurs qu'ils ramènent à la vie. Voilà une autre interprétation. Dans la fille de Jaïr, donc la fille du chef de la synagogue, qu'on trouve en Saint Marc chapitre 5, dans la fille de Jaïr qui ressuscite, dans l'intérieur de la maison, il voit l'image de l'âme dont la faute est demeurée secrète. Donc, c'est une légère variante avec ce qui a été dit auparavant. Je vous ai dit que la première résurrection de la fille du chef de la synagogue représente le péché mortel de faiblesse. Ici, c'est une légère variante. Les pères disent que ça représente l'âme dont la faute est demeurée secrète, mais qui est une faute mortelle puisqu'elle tue. La personne est morte. Deuxièmement, le fils de la veuve de Naïm, le point qui nous intéresse ici, dans cette résurrection du fils de la veuve de Naïm, les pères de l'Église voient le pécheur qui vient de succomber, mais dont la faute est publique. Il est là exposé aux yeux de tous. C'est pour ça qu'il y a une grande foule qui le suit. Alors que dans la résurrection de la fille de Jaïr, elle est dans sa chambre et il n'y a que la famille autour. Donc les gens de la famille. Là, la deuxième résurrection, le fils de la veuve de Naïm est entouré d'une grande foule. Et enfin Lazare, là encore une fois, il y a toute une foule autour du tombeau. La mort de Lazare, mort depuis 4 jours, qui est ressuscité par notre Seigneur Jésus-Christ, représente l'image du pécheur invétéré qui lui aussi retrouve la grâce du bon Dieu. Donc Dieu est suffisamment puissant pour guérir le péché véniel, le péché mortel de faiblesse, le péché mortel de malice et le péché de vice, le vice invétéré. Alors vous allez me dire, mais comment peut-on savoir si je suis un péché mortel de faiblesse ou un péché mortel de malice? C'est tout simple. On le voit tout de suite, nous, au confessionnal, lorsqu'un pécheur est tombé dans un péché mortel de faiblesse, attention, c'est un péché mortel, donc il tue la grâce sanctifiante, eh bien, on voit parfois des jeunes ou des moins jeunes qui commettent une faute grave, quelconque, et ils Il lâche tout tout de suite. Il lâche tout, il prend le téléphone, il téléphone aux prêtres qu'ils connaissent. Mon père, est-ce que je peux me confesser? J'ai combien de fautes graves, j'ai besoin de me confesser. Ils font parfois des kilomètres pour venir se confesser immédiatement, parfois très tard. Eh bien, cela prouve qu'ils regrettent vraiment leur péché. C'est un péché mortel de faiblesse. Par contre, la personne qui a commis une faute grave et qui reste dans cette faute grave tranquillement pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, et qui multiplie les péchés mortels, là, c'est un péché mortel de malice. Parce que si c'était de faiblesse, il viendrait se confesser immédiatement. Alors, si je reste dans le péché mortel de malice pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, je vais finir par tomber dans le vice. Le vice, ça veut dire que les racines se sont enfoncées encore plus. Donc, je répète, trois résurrections. Fille de Jaïr qui ressuscite, c'est la faute secrète, faute mortelle secrète. Fils de la veuve de Naïm qui ressuscite, c'est le symbole de la faute mortelle publique. Résurrection de Lazare, symbole de la résurrection, de la guérison du pécheur invétéré qui vit dans le vice. Nous sommes portés en terre, disent les pères, quand nous nous laissons emporter par nos passions, par nos ardentes convoitises, par l'ambition plus froide ou moins violente, par la paresse, quand nous laissons la passion prendre la place de la raison. Ce sont là les porteurs des funérailles de notre âme. Le corps, au lieu d'être un instrument, n'est plus que l'âme, pour l'âme qu'un tombeau. Donc les porteurs des funérailles sont tous les occasions, si vous voulez, qui nous éloignent de Dieu. Les porteurs, dit Saint Bède le Vénérable, les porteurs sont aussi les faux amis qui entraînent au péché. Sous les dehors de dévouement, ils conduisent à la mort. Les faux amis sont ceux qui, avec des bons mots, des belles expressions extérieures, nous éloignent de Dieu. C'est par exemple un faux ami, c'est par exemple quelqu'un qui va utiliser la miséricorde de bon Dieu pour vous pousser à rester dans le péché. Oh, Dieu est bon, vous inquiétez pas, de toute façon il pardonne, alors profitez-en, restez dans le péché. Ça, c'est un faux ami. C'est quelqu'un qui vient nous aider à nous damner en quelque sorte. Lorsque j'ai devant moi des gens qui ne veulent pas sortir du péché, qui voudraient que je les laisse dans cet état-là, je leur dis toujours la même chose, je leur dis, écoutez, si vous voulez vous damner, damnez-vous, mais comptez pas sur moi pour vous aider, parce que c'est pas mon devoir d'État, hein. Moi, je suis prêtre, mon rôle de prêtre, c'est pas d'aider les gens à vivre dans le péché mortel, et ce contraire, c'est les aider à sortir du péché. Donc, sous les dehors, des dehors de dévouement, l'Église de Vatican II, c'est ça, hein, sous des dehors de dévouement, l'Église de Vatican II conduit à la mort. Lorsque Bergoglio dit à un sodomite, qui suis-je pour juger? Il conduit ce sodomite à la mort. Au lieu de rappeler que la sodomie est un péché qui est classé par l'Église dans la catégorie des péchés qui crient vengeance contre le ciel, donc des péchés tellement graves que ces péchés contre nature emmènent en enfer, au lieu d'aider cette personne à se sortir du chemin qui mène en enfer, bien Bergoglio va laisser les gens dans le péché. C'est ça qui est gravissime. Si vous n'avez plus conscience de votre état, ô pauvres pécheurs, au moins, n'écartez pas de vous l'Église, votre mère, qui prie pour vous, en haut de la page 11. Dans toutes les fois qu'un de ses enfants tombe dans le péché mortel, c'est un mort que l'on importe loin d'elle. Mais à chaque fois, quelle que soit la multiplication de ses péchés graves et donc de ses cercueils qui sont portés vers le cimetière, l'Église pleure. C'est un mort qu'on emporte loin d'elle et donc l'Église pleure ses enfants. Autre belle chose écrite par les pères, ce cercueil dans lequel ce jeune homme était porté est un symbole. Ce bois desséché, dit saint Ambroise, était le symbole de notre vie. Aussitôt qu'elle est touchée par Jésus-Christ, aussitôt que notre vie est touchée par Jésus-Christ, elle reprend la vigueur. Il y avait là une annonce que ce serait par le bois de sa croix que Jésus-Christ donnerait le salut au peuple. Au jour de la fête de sainte Monique, on dit donc l'évangile de la veuve de Naïm à cause des pleurs de cette mère. Sainte Monique a pleuré, pleuré, pleuré pour obtenir le salut, le retour à Dieu de son mari et de son fils. Et c'est ce qu'elle a obtenu. Donc il ne faut jamais se décourager. Dans les cas désespérés, prions. Sainte Monique qui était bien dans ce cas-là, et puis aussi Sainte Rita qui est patronne des cas désespérés. Donc voilà, nous avons terminé cette explication des Pères de l'Église. Je vous conseille beaucoup de relire tout ces explications des pères sur ce passage de la résurrection du fils de la veuve de Naïm à partir de la page 9 jusqu'à la page 11 en haut. Donc continuons avec les versets 18 à 23. Là, c'est des choses plus simples. Donc les commentaires sont plus courts. versets 18 à 23 du chapitre 7 de Saint-Luc, les disciples de Jean, Saint-Jean-Baptiste, lui rapportèrent tout cela. Et Jean appela d'autres de ses disciples, qu'il envoya vers Jésus pour lui dire, « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé près de lui, les hommes lui dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers vous pour dire, « Êtes-vous celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» En ce même moment, il guérit un grand nombre de personnes de maladies, d'infirmités, d'esprit mauvais. Il accorda de voir à beaucoup d'aveugles. Puis il répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres sont évangélisés. » Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc on voit très bien ici que Saint Jean-Baptiste, il est rapporté à Saint Jean-Baptiste justement tous les miracles que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Il va guérir les boiteux, guérir les lépreux, guérir les sourds, ressusciter les morts, évangéliser les pauvres. Tous les signes que lui-même avait annoncés. Donc Saint Jean-Baptiste avait annoncé dans sa prédication qu'il viendrait un jour quelqu'un plus grand que lui, dont il n'est pas digne de délier la courroie de sa sandale, qui ressusciterait les morts, qui évangéliserait les pauvres, qui ferait marcher les boiteux, guérir les lépreux et entendre les sourds. Donc les deux disciples, ici, disent les pères, représentent les deux peuples, les juifs et les gentils. Les juifs qui embrassèrent la foi et les gentils qui crurent après avoir attendu. Donc les juifs qui ont d'abord été appelés, un certain nombre de juifs évidemment se sont convertis, ont écouté la parole de Dieu, ont cru en notre Seigneur Jésus-Christ, se sont convertis, c'est le cas par exemple des apôtres, des disciples. Et les gentils, eux, n'avaient pas la foi, mais l'ont trouvée, et ont commencé à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. On continue, versets 24 à 29 du chapitre 7 de Saint Jean. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, ils se mirent à dire aux foules, au sujet de Jean, notre Seigneur qui parle, « Qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu avec mollesse? Ceux qui portent des vêtements précieux et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, voici que j'envoie mon ange devant votre face et il préparera votre chemin devant vous. Car je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, nul n'est plus grand prophète que Jean-Baptiste. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume des dieux est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. » Quel témoignage de notre Seigneur, ce Saint Jean-Baptiste. Hein. Vous savez, si on dit que Saint Jean-Baptiste est un des plus grands saints de l'Église catholique, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même le dit. Hein. Parmi ceux qui sont nés de la femme, nul n'est plus grand prophète que Jean-Baptiste. Et on voit très bien la raison pour laquelle le Moyen-Âge chrétien avait une dévotion toute particulière envers Saint Jean-Baptiste. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on compare? Est-ce qu'on compare ceux qui écoutent et qui ne se convertissent pas à un roseau agité par le vent? Parce que constamment agité par les tempêtes, les mondains sont toujours en proie à la mobilité de leurs désirs et n'hésitent pas là d'être comparés à des roseaux. Ils suivent le mouvement du vent, ils suivent comme le cadavre suit le courant, si vous voulez, ils suivent le mouvement du vent, mais ils ne changent jamais. Il bouge en constant mouvement. Tant qu'on est en mouvement, on ne peut pas écouter notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme une pierre qui roule. Tant que la pierre roule, elle ne peut pas prendre de la mousse. Pour prendre de la mousse, couvrir de la mousse, eh bien, il faut que la pierre s'arrête. Si c'est pareil. Passons à la page 12. Là, c'est la partie plus facile, je vais un peu plus vite. Donc, les hommes vêtus mollement représentent ceux qui passent leur vie dans les délices, dans le péché. Quand le corps est amolli, l'âme ne tarde pas à l'être. Pourquoi? Parce qu'il y a une union entre le corps et l'âme. Une âme faible va entraîner une faiblesse. Un corps faible va entraîner, dans bien des cas, pas toujours, une âme faible. Quand il y a un amollissement du corps, un amollissement moral du corps, parce qu'il y a une union entre le corps et l'âme, bien, ça va entraîner un amollissement de l'âme. C'est pour ça qu'un enfant qui vit dans les délices, qui vit dans la facilité, qui vit dans la paresse, qui vit dans la facilité, eh bien, aura très vite une âme beaucoup trop faible pour lutter contre les tentations. Vous voyez ? Pour cela que les parents doivent faire attention de donner une éducation virile à leurs enfants. Il ne faut pas laisser vos enfants encore être à 11h du matin au lit le samedi, sous prétexte qu'ils sont fatigués. Bon, qu'il dorme un peu plus le samedi, c'est normal, mais ou le dimanche, mais attention qu'il se lève. Parce qu'il y a toujours leur devoir d'État à faire. Je me rappelle au séminaire, on se lève à 6h le matin, le séminaire des cônes. Le dimanche, c'est fête d'obligation, on a le droit de faire la grâce matinée jusqu'à 6h30, pas plus. Bon, dans les familles, il faut du bon sens. Normal qu'un père de famille qui travaille énormément pendant toute la semaine, une maman qui a l'occasion de se reposer, puisse récupérer un peu, très bien. Mais ne pas tomber pour autant dans la paresse. Hein. Attention flegmatique dans la grâce, par rapport à la grâce du bon Dieu. Donc quand le corps est amolli, l'âme va suivre le corps. Notre Seigneur paraît vouloir indiquer un autre genre de vêtements, c'est-à-dire le corps de notre âme est comme revêtu. Ces vêtements délicats sont comme les œuvres de la volupté et du plaisir. Donc ici, par par ces vêtements, cet homme vêtu avec mollesse, ça représente les hommes qui vivent dans la luxure. Et ces hommes qui vivent portent des vêtements précieux, qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. C'est ceux qui vivent dans la vie facile. Quand il n'y a pas de vie pénitentielle, il est difficile de vivre en état de grâce. C'est pour ça que les gens qui ont trop d'argent ne peuvent pas vivre en état de grâce. C'est pratiquement impossible. Il y a quelques cas, très très rares, mais quand une personne vit dans la grande facilité financière avec beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de vie facile, il ne peut pas rester en état de grâce. Il faut qu'il commence à faire pénitence pour pouvoir accéder à la grâce du bon Dieu. Donc ces vêtements délicats sont comme les œuvres de la volupté et du plaisir. Ceux qui laissent énerver leurs membres au contact de ces faux délices sont bannis du royaume des cieux. Les princes de ce monde et les puissances des ténèbres s'en emparent, car ils sont les rois qui exercent leur empire absolu sur les imitateurs de leurs œuvres. Donc donnez à vos enfants un esprit de pénitence. Malheur à ces enfants qui n'ont pas de colonne vertébrale, parce que les parents ne leur ont jamais appris à faire pénitence. J'ai connu des familles comme ça, c'est épouvantable, avec des enfants de 10-12 ans qui vivaient dans les délices littéralement parce que la maman faisait tout. La maman était devenue l'esclave de ses enfants. Alors c'est elle qui faisait le lit, c'est elle qui rangeait la chambre. C'est juste si elle n'habillait pas son enfant à 12 ans, elle s'occupait de son enfant comme d'un... si c'était un petit caniche, quoi, littéralement. Et elle ne se rendait pas compte qu'en agissant ainsi, ben, elle enlevait la force spirituelle de l'enfant, et l'enfant est devenu de plus en plus faible. En même temps que le Sauveur proclame la supériorité de Saint Jean-Baptiste sur tous les enfants des femmes, il oppose quelque chose de plus grand. Celui qui devient fils de Dieu par la naissance, qu'il reçoit de l'Esprit Saint, car le royaume du Seigneur, c'est l'Esprit de Dieu. Donc même si Saint Jean-Baptiste est un des plus grands saints de l'histoire de l'Église, eh bien, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que le plus grand des saints ici-bas. Alors, autre phrase très importante, je l'ai mise en caractère gras à cause de cela. Bien que sous le rapport des œuvres et de la sainteté de la vie, nous soyons inférieurs à ceux qui ont pénétré le mystère de la foi, et dont Saint Jean-Baptiste est la figure, cependant, nous nous élevons plus haut que par Jésus-Christ qui nous rend participants à la nature divine. Donc, par la grâce sanctifiante, nous devons devenir coopérateurs de notre Seigneur Jésus-Christ. En quelque sorte, on peut dire qu'une personne qui vit en état de grâce est divinisée littéralement, et donc va prendre sur lui la force de Dieu. On continue, là ce sont des passages plus faciles, donc il y a peu de commentaires. Versets 30 à 36 du chapitre 7 de Saint Luc. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, ont rendu vain pour eux le dessein de Dieu en ne se faisant pas baptiser par lui. À quoi donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui sont-ils semblables? Ils sont semblables à des enfants qui sont assis sur une place publique et qui se crient les uns aux autres. Nous avons joué de la flûte pour vous et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté une lamentation, vous n'avez point pleuré. Jean le Baptiste en effet est venu, ne mangeant point de pain, ne buvant point de vin, vous dites il est possédé du démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites c'est un mangeur et un buveur de vin, et un ami des publicains et des pécheurs. Et la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants. Alors un pharisien l'invitant à manger avec lui, il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Voici un petit commentaire des pères. Est-ce que le soleil qui inonde toute la terre de ses rayons contracte la moindre souillure parce que sa lumière pénètre les corps immondes? Comment donc le soleil de justice pourrait-il éprouver la moindre altération dans ses rapports avec les méchants? Donc, notre Seigneur Jésus-Christ peut distribuer ses grâces de façon infinie sans perdre de sa gloire. La gloire du bon Dieu est infinie. Et donc, plus on reçoit cette grâce, plus on en demande. On n'est jamais rassasié de la grâce du bon Dieu. Avec quelque chose de matériel, c'est le contraire. Quand tu as trop d'argent, on finit par en être dégoûté. Quand tu as trop de nourriture abondante, on finit par être dégoûté de cet accès de nourriture. Mais avec la grâce du bon Dieu, c'est l'inverse. Plus on en est, plus on en a de cette grâce, plus on découvre notre Seigneur Jésus-Christ, plus on apprend à le connaître, et plus on peut répondre à cette grâce. Verset 37 du chapitre 7. Voici qu'une femme, qui était une pécheresse dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre rempli de parfum. Ici, c'est Sainte Marie-Madeleine qui va arriver. Donc, elle a oint le Fils, le Christ deux fois. Première fois en Saint-Luc, deuxième fois Béthanie, six jours avant sa mort. Donc, c'est au chapitre 26, Saint-Matthieu, chapitre 12 de Saint-Jean. Il n'y a pas de concordance entre tous les pères de l'Église. Certains pères de l'Église pensent qu'il y a eu deux fois cette femme qui verse le parfum sur les pieds ou la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce sont deux femmes différentes, mais la plupart des pères pensent que c'est la même femme. C'est pour ça qu'il y a l'application du mot de notre Seigneur, les publicains, les prostituées vous précéderont au royaume des cieux, parce que Sainte Marie-Madeleine, avant sa conversion, était une femme, pratiquement une femme publique qui vivait dans le concubinage. Et c'est donc la même femme de Magdala, d'où son nom Marie-Madeleine, qui était la sœur de Saint-Lazare et de Sainte-Marthe. Donc, Sainte Marie-Madeleine a oint le Christ deux fois. Nous verrons qu'elle a oint le Christ avec une certaine différence dans son comportement. Première fois, elle a oint les pieds de notre Seigneur en les essuyant de ses cheveux. La deuxième fois, elle est allée derrière notre Seigneur. Elle a oint sa tête. La deuxième fois, c'était juste avant la Passion. Donc, elle avait déjà changé de vie. Au début, elle vit encore dans le péché. Elle venait de se convertir en écoutant un serment de notre Seigneur. Elle avait été bouleversée par le serment de notre Seigneur. Elle s'approche de notre Seigneur, mais à cause de tous ses péchés qui vont être pardonnés, mais qui sont encore là, elle ne va oindre que les pieds de notre Seigneur. Ensuite, elle va se mettre à suivre notre Seigneur Jésus-Christ, va entrer dans la troupe d'élite qui suit notre Seigneur Jésus-Christ avec les Saintes Femmes, avec notre Sainte Vierge Marie, et à la fin de la vie thérèse de notre Seigneur Jésus-Christ, elle va revenir, et cette fois-ci, comme elle vit vraiment l'état de grâce, elle va pouvoir oindre la tête de notre Seigneur. Plus grave est la maladie, plus doué doit être le médecin qui prétend la soigner. Une vie anxieuse, disent les pères, de réparer les fautes passées plaît souvent davantage à Dieu qu'une vie innocente passée dans une sécurité indolente. Les pères ont une autre formule que j'aime beaucoup, ils disent, chez plusieurs d'entre eux, ils disent « Dieu a plus, ou le général d'armée a plus d'affection pour un soldat qui tombe, qui a même abandonné son poste, mais qui revient après avoir abandonné, qui revient en lui-même, qui revient à son poste et qui donne des stockades avec encore plus de force. Eh bien, le général a plus d'affection pour celui-là qui est parti, qui est revenu, qui est tombé, qui s'est relevé, que pour quelqu'un qui n'a jamais abandonné son poste ou quelqu'un qui n'est jamais tombé. » Donc notre Seigneur Jésus-Christ a plus d'amour pour un gros pécheur qui revient vers lui que pour un petit pécheur qui a moins besoin de sa miséricorde. C'est pour ça que les plus grands saints dans l'histoire de l'Église sont souvent des saints qui ont eu une vie patachon dans le passé. C'est le cas de Saint Augustin, c'est le cas de Sainte Marie-Madeleine par exemple. Donc une vie anxieuse de réparer les fautes passées plaît souvent davantage au Seigneur qu'une vie innocente passée dans une sécurité indolente. Pour cela qu'il ne faut jamais se décourager. Hein. Même si nous avons offensé gravement le bon Dieu dans notre vie passée, le bon Dieu a toujours de l'amour pour nous, et je dirais a plus d'amour pour nous parce que nous avons plus besoin de son amour. Vous êtes deux groupes de pécheurs devant notre Seigneur Jésus-Christ, un petit pécheur et un gros pécheur. Notre Seigneur Jésus-Christ doit exercer davantage sa miséricorde à l'égard du gros pécheur qu'à l'égard du petit pécheur. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a plus d'amour pour un gros pécheur que pour un petit pécheur.
strictement parlant, le bon Dieu n'a pas besoin d'exercer beaucoup de miséricorde à l'égard de quelqu'un qui n'a jamais offensé Dieu. Hein? Par contre, un gros pécheur doit utiliser cette grâce du bon Dieu. Donc, attaquons la page 13 du Polycopié. Encore une belle phrase des pères. Grand, en effet, le don d'innocence par lequel on est préservé du péché, mais plus grande encore est la grâce de la pénitence et du pardon des péchés. Et cette grâce est plus grande en proportion de la grandeur du péché puisqu'elle est accordée aux moins dignes. Donc la grâce de la pénitence est plus grande que la grâce de l'innocence. C'est incroyable la force de cette phrase des pères de l'Église. Donc quelqu'un qui a beaucoup péché et qui a été pardonné de son péché peut obtenir un degré de gloire plus grand que quelqu'un qui n'a jamais péché. Parce que quelqu'un qui a beaucoup offensé Dieu, qui s'est converti avec la grâce du bon Dieu, a acquis plus de mérite que quelqu'un qui n'a jamais offensé Dieu. La grâce devient alors pour cette personne la plus grande, dit saint Thomas d'Aquin. Ainsi, le pécheur, vraiment repentant, dépasse son frère en humilité, en austérité, en sainteté de vie, et fait souvent des actes d'héroïsme que les moindres pécheurs ne peuvent faire. Nous, on le voit très bien, nous prêtres, avec le cas des convertis. Et parfois, on trouve une force d'âme chez les convertis, supérieure à la force d'âme que nous voyons chez les gens qui ont toujours été catholiques. Les gens qui ont toujours été catholiques, qui ont toujours utilisé les sacrements pendant toute leur vie, eh bien, ont devant eux parfois des convertis qui ont vécu une vie de patachon pendant parfois plusieurs années, qui se convertissent complètement et qui veulent rattraper en quelque sorte le temps perdu. Et à ce moment-là, ils progressent avec des pas de géants dans la course qui mène vers le bon Dieu, et souvent on voit des convertis qui comprennent les choses bien plus vite que les catholiques qui ont toujours été catholiques. Et j'ai vu des convertis qui ont changé de vie et qui ont compris des choses que j'ai jamais été fichu d'expliquer à des gens qui ont toujours été catholiques qui ne comprenaient pas. Par exemple, c'est très très net au niveau de l'habillement du témoignage vestimentaire qu'un catholique doit apporter. Essayez d'expliquer à une catholique qui a toujours été catholique, un petit peu tiède, mais toujours catholique, essayez d'expliquer à une catholique qu'elle doit arrêter de mettre des pantalons, c'est parfois très difficile à expliquer. Par contre, expliquer à une personne qui a vécu dans le péché pendant toute sa vie, qui se convertit complètement, expliquer à cette jeune femme qu'elle doit arrêter de mettre le pantalon, comprend tout de suite. Expliquer à une catholique qui a toujours été catholique qu'il ne faut pas aller à la messe, par exemple, de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pilice, parce que c'est une messe dans le cadre de l'Église de Vatican II, une messe unacum en union avec un bandit comme Bergoglio. Les catholiques qui ont toujours été catholiques ont du mal à comprendre ces choses-là. Par contre, un converti qui revient de loin, il sait exactement d'où il vient, et lui comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin d'expliquer à un protestant qui se convertit à la foi catholique que la nouvelle messe est protestante. Il le voit tout de suite, parce qu'il vient du protestantisme. Votre explication des pères de l'Église. La perle est le symbole de la pénitence. De même que le soleil, par ses rayons, change la substance de l'huître en un joyau précieux, de même le Christ, par sa grâce transformante, change une pécheresse en une sainte pénitente. Donc, le parfum, si vous voulez, représente toutes les vertus de Sainte Marie-Madeleine. Les larmes de la pénitence sont le vin des anges, en leur procurant une grande joie. Elles contiennent l'odeur de la vie, le goût de la grâce et du pardon, la joie de la réconciliation, du retour de l'innocence et d'une conscience sereine. Alors, verset 38, continuons le texte. Chapitre 7 de Saint-Luc, verset 38. Se tenant derrière lui à ses pieds, Marie-Madeleine se mit à arroser ses pieds de ses larmes, et elle les essuyait avec les cheveux de sa tête, et elle baisait les pieds, les oignait de parfum. Là encore, de belles explications des pères de l'Église. Encore un passage, vous voyez, qui a été beaucoup commenté par les pères. Hein. Conversion de Sainte Marie-Madeleine, cette femme qui oint les pieds de notre Seigneur et qui va bientôt oindre la tête de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ils vont expliquer les différences et les passages magnifiques. Donc page 13. Il faut noter la révérence et la modestie de Sainte Marie-Madeleine qui ne se place pas à la tête de notre Seigneur mais à ses pieds. La révérence et la modestie sont la fondation de toutes les vertus. Elle fut la première à venir au Christ pour demander le pardon de ses péchés. Ceux qui la précédaient ne venaient que pour demander la guérison corporelle. Elle ne demande pas la guérison corporelle. En fait, elle n'a pas de maladie corporelle. Elle demande la guérison spirituelle. Et elle demande la guérison de son âme, alors que la plupart des gens qui venaient à notre Seigneur Jésus-Christ ne se contentaient que de demander la guérison du corps. C'est bien plus grave d'avoir une âme malade que qu'avoir un corps malade. Mais la plupart des gens ne voient que la maladie du corps et sont incapables de voir la maladie spirituelle qui est bien plus grave. Regardez ce que font les gens modernes pour soigner un bobo, pour soigner une blessure physique. Et je vous assure que si les gens passaient autant de temps à s'occuper de leur âme, ils seraient tous des saints. Donc pour arranger un petit défaut corporel, ils sont capables de dépenser des milliers et des milliers d'euros pour se refaire une oreille, pour se refaire enlever une couche de graisse trop importante ou se refaire le nez ou je ne sais quoi. Mais si on leur demandait la moitié de ça pour s'occuper de leur âme, ils n'ont pas le temps. Bien, comprenons que la maladie de l'âme est bien plus grave que la maladie du corps. Donc le Christ appela Marie-Madeleine à lui par une grâce intérieure, mais l'a reçue extérieurement avec compassion et pitié. Il n'a pas lavé ses pieds pour que nous puissions les faire de nos larmes. Elle éprouve intérieurement une si grande honte d'elle-même qu'elle compte pour rien celui qui lui vient du dehors. C'est une belle phrase. Il n'a pas lavé ses pieds pour que nous puissions le faire de nos larmes. Avec nos larmes, nous lavons les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. La poussière qui couvre les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ représente la poussière de nos péchés. Nos péchés sont comme une poussière qui vient entacher un magnifique diamant, notre Seigneur Jésus-Christ. Et par nos larmes, nous passons le chiffon en poussière et nous récupérons la beauté extraordinaire de ce diamant. Alors là, il y a des passages magnifiques. Ces quatre points suivants sont splendides. Voilà l'explication des pères sur l'action de Sainte Marie-Madeleine. Elle a consacré au Seigneur les cheveux même qu'elle s'enorgueillissait d'ornir avec soin. Elle était devenue une femme publique. Et la tradition nous dit qu'elle était d'une prodigieuse beauté. Eh bien, elle va utiliser justement les ornements de cette beauté pour les mettre cette fois-ci complètement au service du Seigneur. Donc ses cheveux, ses cheveux blonds dont elle s'enorgueillissait, eh bien, elle va les utiliser pour essuyer les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle les utilisa comme serviette, ses yeux comme un pichet et ses larmes comme eau. Sa foi lava les pieds du Seigneur, son amour pour lui les oignit. Ce qu'elle avait mis au service du péché est maintenant offert pour la gloire de Dieu. Elle avait fait servir ses cheveux à rehausser la beauté de son visage, elle s'en sert pour essuyer ses larmes. Eh bien, la Sainte Marie-Madeleine, qui utilise sa chevelure pour sécher les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle a arrosé de ses larmes, représente le sacrement de pénitence, représente l'esprit de pénitence, la vertu de pénitence. Nous aussi qui avons péché comme Sainte Marie-Madeleine, il faut que nous aussi nous ayons le courage de nous approcher des pieds de notre Seigneur Jésus-Christ, d'arroser ses pieds de nos larmes, et d'essuyer avec les cheveux, donc avec la pénitence, d'essuyer ces larmes qui auront couvert les pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, deuxième élément, ses yeux. D'abord les cheveux, puis les yeux. Les yeux qui avaient convoité les choses mondaines sont maintenant lavés par les larmes du repentir. Ces yeux qui avaient été soignés de façon excessive par tous les cosmétiques qu'elle avait utilisés pour mettre en valeur ses yeux, eh bien, ses yeux vont maintenant n'être dirigés que vers notre Seigneur Jésus-Christ. Ses yeux, qui avaient convoité toutes les jouissances de la terre, maintenant, par la pénitence, elle en éteint le feu par un déluge de larmes. Donc, par ses larmes, elle va laver tous les péchés qu'elle a commis avec ses yeux, de même que en agissant ainsi avec notre Seigneur Jésus-Christ, elle va rattraper tous les péchés qu'elle a commis en attirant les hommes avec la beauté de sa chevelure. Sa bouche, donc les cheveux, les yeux, la bouche, ensuite les parfums. Donc on a expliqué les cheveux, les yeux, maintenant la bouche, au milieu de la page 13. Sa bouche, qui parlait avec orgueil, embrasse maintenant le sol sur lequel les pieds du Seigneur sont posés. Elle sacrifie au Seigneur par amour pour lui ses indulgences coupables, mais ses vices passés laissent la place aux vertus, et elle sert Dieu avec ce qu'elle utilisait pour l'offenser. Sa bouche était ouverte à des paroles inspirées par l'orgueil. Elle baisse les pieds du Sauveur et imprime ses lèvres sur les pieds du Rédempteur. Si j'ai gaspillé des grâces dans le passé, je dois au contraire maintenant réutiliser toutes ces grâces que j'ai gaspillées pour les mettre au service du bon Dieu. Faisons un peu un examen de conscience. Si j'ai gaspillé mon intelligence, si j'ai gaspillé ma volonté, si j'ai gaspillé mon irascible, si j'ai gaspillé mon concupiscible dans le passé, utilisons maintenant mon intelligence pour atteindre le vrai. Utilisons ma volonté pour atteindre le bien. Utilisons l'irascible pour me battre contre les obstacles que je rencontre dans le chemin qui mène au bon Dieu. Et utilisons mon concupiscible pour lutter contre la concupiscence et les attractions défendues. Donc après les cheveux, les yeux, la bouche, autre commentaire des pères sur les parfums qu'elle a utilisés. En fait, le vase d'albâtre qu'elle utilise, rempli de parfums, représente justement, était utilisé par elle pour augmenter sa beauté physique, attirer les hommes. Elle avait employé les parfums donc dans le passé pour donner à son corps une agréable odeur. Est-ce qu'elle avait autant pratiqué pour elle-même, elle en fait à Dieu un admirable sacrifice. Elle veut que tout ce qui est en elle a été un instrument, que tout ce qui en elle a été un instrument pour outrager Dieu devienne un instrument de pénitence pour lui plaire. Et donc elle va prendre un parfum, mais pas n'importe quel parfum. L'évangile précise que c'est un vase d'albâtre, donc un vase de prix, rempli d'un nard très précieux, un parfum très précieux. Donc elle a pris son plus beau parfum. Quand on offre quelque chose à notre Seigneur Jésus-Christ, on n'offre pas une vieillerie, on offre le plus beau qu'on ait, la chose la plus belle que nous ayons. J'aime beaucoup ces passages, ces quatre points, les cheveux, les yeux, la bouche, les parfums. Et si moi aussi, comme cette Marie-Madeleine, j'ai offensé Dieu par mes cheveux, par mes yeux, par ma bouche, par les parfums que j'ai utilisés, eh bien, rattrapons maintenant, en utilisant ces mêmes choses que j'ai utilisées dans le passé pour offenser Dieu, utilisons-les maintenant dans la vie actuelle et dans le futur, pour rattraper mes bêtises du passé. Donc si j'ai utilisé mes cheveux pour m'enorgueillir de ma beauté physique, eh bien maintenant je dois avec ces cheveux essuyer les larmes de la pénitence. Si j'ai utilisé mes yeux pour offenser Dieu et pour attirer par mes regards des choses que je n'avais pas le droit d'attirer, des gens que je n'avais pas le droit d'attirer, des intelligences et des volontés que je n'avais pas le droit d'attirer à moi, eh bien maintenant utilisons la beauté des yeux que le bon Dieu m'a donné au service du bon Dieu. Si j'ai utilisé ma bouche pour parler avec emphase, avec orgueil dans le passé, utilisons maintenant ma bouche pour louer notre Seigneur Jésus-Christ. Et si j'ai utilisé des parfums pour donner à mon corps une agréable odeur et plaire aux gens du monde, utilisons maintenant les parfums de mon âme, les parfums spirituels de mon âme, régénérés par la pénitence, pour avoir et porter partout autour de moi la bonne odeur du Christ. Autre explication des pères, il y en a beaucoup, là je ne donne qu'une partie, hein. Les deux pieds du Seigneur sont la miséricorde et la justice. Embrasser l'un sans l'autre produit une sécurité présomptueuse ou un désespoir dangereux. La miséricorde et la justice travaillent ensemble chez notre Seigneur. Miséricorde seule sans justice, c'est de la faiblesse. Justice seule sans miséricorde, ça peut être de la cruauté. Il faut les deux, miséricorde et justice. Et notre Seigneur Jésus-Christ utilise sa justice sans oublier la miséricorde. Et notre Seigneur Jésus-Christ utilise la miséricorde sans oublier la justice. Ici-bas, il peut utiliser les deux. N'oublions pas que une fois que nous sommes morts, nous passons dans l'éternité. Dans l'éternité, notre Seigneur Jésus-Christ, au jugement, n'aura que la justice. La miséricorde, il l'utilise ici-bas, pour nous, chacun d'entre nous. Mais une fois que nous sommes morts, nous ne sommes plus dans le temps, nous sommes dans l'éternité, et là, on ne peut plus changer. On ne peut plus changer son état de vie. Si je meurs en état d'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ sera obligé d'utiliser sa justice pour me condamner. Si je meurs, au contraire, dans l'état d'ami de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ utilisera sa justice pour m'ouvrir les portes du paradis. C'est-à-dire que cette fois-ci, il va vraiment utiliser la miséricorde. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne peut plus utiliser sa miséricorde pour un pécheur qui ne s'est pas repenti et qui meurt en état de non-repentance. Notre Seigneur Jésus-Christ peut utiliser sa miséricorde ici-bas à l'égard d'un pécheur qui se repent. Mais notre Seigneur ne peut pas utiliser sa miséricorde une fois que nous sommes morts parce qu'on n'est plus dans le temps mais dans l'éternité. Donc, Il faut utiliser à la fois l'injustice et la miséricorde. Le parfum fait de nos péchés, macéré dans le mortier de la contrition, aspergé de l'huile du discernement, adouci au chaudron de la discipline par les flammes du remords, appliqué sur les pieds du Sauveur comme parfum précieux. Vous voyez comme les pères de l'Église ont cette grâce extraordinaire d'interpréter ces paroles toutes simples de l'Évangile, d'en tirer la substantifique moelle qui est derrière. Sa pénitence fut telle qu'elle y passa 30 années dans la pratique des austérités et des bonnes œuvres. Vous savez que notre sainte, donc sainte Marie-Madeleine, est venue faire pénitence, conduite par un ange à la Sainte-Baume, près d'Aix-en-Provence. Pour ceux qui n'y sont pas allés, je conseille beaucoup d'aller prier dans la grotte de la Sainte-Baume, près d'Aix-en-Provence. Je l'ai fait 2-3 fois, c'est des grandes grâces que j'ai reçues là-bas. C'est impressionnant d'être dans cette grande grotte, qui est très grande. Il faut monter par un chemin qui monte très raide. On monte à cette grotte. Ce sont les Dominicains, si mes souvenirs sont exacts, qui s'occupent de la vie spirituelle dans la grotte. Et dans cette grotte, c'est là, il y a une pierre sur laquelle notre sainte, sainte Marie-Madeleine a passé 30 ans à faire pénitence. Et 7 fois par jour, les anges venaient la chercher. Il a monté au sommet de la montagne, au sommet de la falaise. Cette grotte est au milieu d'une falaise. Et au sommet du falaise, la falaise qu'on appelle le pilon, 7 fois par jour, elle allait avec les anges, portée par les anges à travers les airs, pour chanter l'office 7 fois par jour, les matines, les laudes, prime, tierce, sexte, nonne, vêpre et complie. Donc, ici, une note des pères, 300 beaucoup plus haut, Seigneur Notre-Dame, évidemment, Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine. Et donc, on voit la dévotion toute particulière qu'avait le Moyen-Âge pour ces trois grands saints, Notre-Dame, évidemment, la Mère de Dieu, Saint Jean-Baptiste, parce que Saint Jean-Baptiste, par sa prédication vigoureuse, parle directement aux âmes des pécheurs, et Sainte Marie-Madeleine, qui fait pénitence de ses péchés. On se reconnaît très, très facilement en ces grands saints. On a parfois du mal à se reconnaître dans des saints comme, je ne sais pas, je pense par exemple à Saint Jean Berquemans ou Saint Louis de Gonzague par exemple, qui ont été d'une innocence extraordinaire pendant toute leur vie. On a l'impression qu'ils n'ont jamais commis un seul péché. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est pareil. Et donc, certains pécheurs ont du mal, c'est voilà pour moi, on a du mal à se reconnaître dans ces saints parce qu'ils nous semblent trop parfait pour nous. Par contre, chez un saint comme saint Augustin, comme sainte Marie-Madeleine, qui sont des saints qui ont beaucoup offensé Dieu, alors là, on se retrouve, on se reconnaît en eux. Moi aussi, j'ai beaucoup offensé le bon Dieu, mais comme sainte Marie-Madeleine s'est convertie, comme saint Augustin s'est converti, si saint Augustin s'est converti, si sainte Marie-Madeleine s'est convertie, alors moi aussi, avec la grâce du bon Dieu, moi aussi, je peux me convertir. Celui qui a pitié des pauvres oint les pieds du Christ, car les pauvres sont ses pieds, sur lesquels il marche sans les blesser. Dès que le pécheur châtie lui-même par la pénitence le mal qu'il a fait, il cesse d'être pécheur, puisqu'il punit en lui-même ce que la justice divine condamne. Donc il faut jamais, jamais se désespérer après un péché. Et même si le péché est renouvelé régulièrement, revenir vers notre Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous, Saint Pierre qui demande à notre Seigneur, combien de fois est-ce que je dois pardonner? 7 fois. Et notre Seigneur lui répond, non Pierre, pas 7 fois, 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire toujours. Même si quelqu'un sort du confessionnal, a promis au prêtre qu'il ne recommencerait pas, et puis 10 minutes après, il recommence un péché, qu'est-ce qu'il doit faire? Ça arrive souvent, monsieur, mais qu'est-ce que je dois faire? Je viens de commettre un péché, alors je sors du confessionnal. J'ai commis le même péché. Revenez vous confesser, mais je ressors. Revenez vous confesser. Je vais vous donner l'absolution. Malheur au prêtre qui s'énerve au confessionnal, qui monte le ton devant le pécheur pénitent, jamais, jamais s'énerver. Parfois, c'est sûr, quand on a devant nous des gens qui se moquent de Dieu, c'est autre chose. Quand on a devant nous quelqu'un qui utilise le confessionnal comme un moyen pour pécher davantage, qui refuse de quitter une occasion prochaine volontaire de péché grave, c'est autre chose. J'ai vraiment au confessionnal quelqu'un qui me dit, voilà, monsieur l'abbé, je vis tranquillement en état de péché mortel avec la femme de mon voisin, mais j'ai pas l'intention de la quitter, c'est évident que je peux pas donner l'absolution, sinon c'est moi qui commets un péché mortel. Plus donc le cœur du pécheur brûle du feu de la charité, plus aussi ce feu consomme la rouille et les souillures du péché. Celui à qui on remet moins aime moins. La justice et la paix de l'homme avec Dieu, comme le péché et la guerre entre Dieu et l'homme. Le péché engendre la haine et l'orgueil. Au contraire, la justice engendre la paix. Rappelez-vous les signes par lesquels on peut reconnaître l'action du bon esprit sur notre âme, la paix, la joie, la lumière et l'attraction vers le bien, vers les choses belles. Et au contraire, les signes par lesquels on peut reconnaître le travail du démon sur une âme, la tristesse, la noirceur, l'obscurité, la confusion et l'attraction vers les choses mondaines, vers les choses laides. En haut de la page 14, qui revient à dire, faites tout ce qui peut vous conduire à la paix de Dieu. Notre Seigneur donne une paix que les hommes du monde sont incapables d'obtenir du monde. Alors ce pharisien qui va se plaindre, qui ne comprend pas l'action de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est scandalisé de voir que notre Seigneur Jésus-Christ se laisse toucher par une pécheresse qui est connue comme telle dans tout le pays, eh bien ce pharisien, Simon, eh bien, qui présume de sa fausse justice, c'est le peuple juif. Cette femme pécheresse, au contraire, qui se jette aux pieds du Seigneur et les arrose de ses larmes, c'est la gentilité convertie au vrai Dieu. Et le peuple juif refuse de se convertir alors que les gentils qui n'ont pas connu Dieu dans le passé, qui n'ont pas été amenés à Dieu par les prophéties de l'Ancien Testament, vont se convertir. J'ai déjà expliqué que les convertis ont parfois plus d'amour du bon Dieu que les gens qui ont toujours été catholiques. Donc ce lépreux, c'est le prince du monde. Ce lépreux, c'est le prince du monde. Et la maison de Simon, Simon était un lépreux par tradition. Donc, Simon lépreux, la maison de Simon le lépreux, qui a invité notre Seigneur au repas, c'est toute la terre. Le Seigneur est descendu des hauteurs des cieux sur la terre, parce que cette femme, qui est la figure de l'âme et de l'Église, ne pouvait obtenir sa guérison si le Christ était venu sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ se fait homme pour pouvoir s'approcher de nous, pour pouvoir nous toucher littéralement. Si c'était approcher de nous à toute la gloire de sa divinité, nous serions complètement paniqués, j'ai déjà expliqué. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ se cache sous les traits d'un petit enfant. Personne n'a peur d'un enfant, personne n'a peur d'un bébé. C'est pour ça qu'on voit très bien comment les bergers s'approchent de notre Seigneur Jésus-Christ, le prennent dans ses bras tout de suite, parce que c'est un enfant. C'est pareil pour les rois mages. Mais nous, c'est pareil. Il faut nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, justement, surtout si nous sommes des pécheurs. Supposez donc une âme qui s'approche sincèrement de Dieu, disent les pères, qui est loin d'être esclave de ses crimes honteux et qui blesse ouvertement la pudeur, qui obéit à la parole de Dieu avec amour et dans la confiance d'une chasteté inviolable, cette âme s'élève jusqu'à la tête de Jésus-Christ, et la tête de Jésus-Christ, c'est Dieu. Mais que celui qui ne peut arriver jusqu'à la tête de Jésus-Christ se tient humblement à ses pieds, le pécheur à ses pieds, le juste près de sa tête. Et cependant l'âme qui a péché a aussi son parfum. Donc notre grande sainte ici, sainte Marie-Madeleine, au début, n'ose pas monter à la tête. Elle d'abord se met à genoux aux pieds de notre Seigneur. Plus tard, après sa conversion, j'ai expliqué, elle pourra monter à la tête et oindre la tête de notre Seigneur Jésus-Christ de ce parfum. Alors le parfum, disent les pères, est l'odeur d'une bonne renommée. Si donc nous faisons de bonnes œuvres dont la réputation se répande comme un parfum par toute l'Église, nous répandons dans un sens véritable des parfums sur le corps du Seigneur. Alors cette femme, sainte Marie-Madeleine, se tenait à côté des pieds du Seigneur. Donc c'est dans le texte. Se tenant derrière lui à ses pieds, elle se mit à arroser ses pieds de ses larmes, elle les essuyait avec les cheveux de sa tête et elle baisait ses pieds et oignait de parfum. Verset 38 du chapitre 7. Donc cette femme se tenait à côté des pieds du Seigneur, car nous tenions directement contre ses pieds lorsque vivant au milieu de nos péchés, nous résistions en quelque sorte à ses voies. Mais lorsqu'après nos péchés, nous revenons à lui dans les sentiments d'une véritable pénitence, alors nous tenons derrière lui à ses pieds parce que nous suivons ses traces auxquels nous faisions alors profession de résister. Et cette conversion de sainte Marie-Madeleine est le symbole de notre propre conversion. Si sainte Marie-Madeleine, de grande pécheresse publique qu'elle était, s'est convertie, ça veut dire que tout le monde peut se convertir, moi le premier. Notre Seigneur Jésus-Christ nous donne donc sainte Marie-Madeleine comme un exemple de conversion pour chacun d'entre nous. Il faut méditer ce passage magnifique. Je ne vais pas terminer encore toutes ces explications. Il y a tellement de choses à dire sur ces passages qui sont très très riches. Alors, nous sommes au milieu de la page 14. Donc, la prochaine fois, Dieu aidant, je pense que je pourrais terminer le chapitre 7 de Saint-Luc. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.